L'île au trésor par Robert Louis Stevenson, 9e cassette, 2e face, page 212. L'explosion de protestation que seuls les regards menaçants de Silver avaient contenu éclata dès que le docteur eut quitté le fortin. Les pirates accusèrent ouvertement Long John de jouer double jeu, d'essayer de conclure une paix séparée à son profit, de sacrifier les intérêts de ses complices et victimes, bref, de faire ce qu'il était précisément en train de faire. Cela me paraissait si évident, en l'occurrence, que je n'arrivais pas à concevoir comment il allait s'y prendre pour détourner leur colère. Mais il valait deux fois plus que tous réunis, et sa victoire de la veille lui avait assuré une emprise considérable sur leurs esprits. Il les traita d'imbéciles et de crétins, leur affirma qu'il fallait que je parle au docteur, leur brandit la carte sous le nez, leur demanda s'ils pouvaient se permettre de rompre le traité le jour même où ils allaient commencer la chasse au trésor. « Non, mille tonnerres !» s'écria-t-il, « le traité, on le rompra le moment venu. Jusque-là, faut que je mette dedans ce foutu docteur, c'est-à-dire que je le trompe, même si je dois lui graisser les bottes avec de l'eau de vie. » Ensuite, il leur donna l'ordre d'allumer du feu, puis sortit en s'aidant de sa béquille, une main posée sur mon épaule, laissant les boucaniers plonger dans le désarroi, réduits au silence par sa volubilité plutôt que convaincus. « Doucement, fiston, doucement, me dit-il. Il pourrait nous sauter dessus en un clin d'œil s'il nous voyait nous dépêcher. » Nous traversâmes donc très posément l'étendue de sable jusqu'à l'endroit où le docteur nous attendait de l'autre côté de la palissade, et dès que nous fûmes à portée de voix, Silver s'arrêta net. « Vous prendrez bonne note de ça, docteur, dit-il. D'autre part, le gamin vous racontera comment que je lui ai sauvé la vie et comment que j'ai été déposé pour cette raison. Je vous en fiche mon billet. Docteur, quand un homme gouverne si près du vent que moi, jouant son dernier souffle à pile ou face, peut-être que ça vous semblerait pas trop de lui adresser une bonne parole. Rappelez-vous, je vous prie, que c'est pas seulement ma vie qui est dans la balance, mais encore celle de ce garçon. Allons, docteur, soyez gentil pour moi et donnez-moi par pitié un peu d'espoir pour me permettre de continuer. » Silver n'était plus le même maintenant qu'il se trouvait loin de ses amis et du fortin. Ses joues semblaient s'être creusées. Sa voix tremblait. Il parlait avec le plus grand sérieux. « Voyons, John, auriez-vous peur ?» dit le docteur. « Docteur, je suis pas un lâche pour sûr. Croyez-moi, j'ai pas ça de frousse en moi. » Et il fit claquer ses doigts. Mais je vous avoue franchement que l'idée de la potence me flanque la tremblotte. Vous êtes un brave homme et un homme juste. J'en connais pas de meilleur sur terre. Vous oublierez pas ce que j'ai fait de bien, pas plus que vous oublierez ce que j'ai fait de mal, je le sais. Maintenant, voyez, je m'écarte pour vous laisser seul avec Jim. Et ça aussi, vous le mettrez à mon compte, parce que croyez-moi, c'est une bordée bougrement dangereuse que je cours. Là-dessus, il s'éloigna jusqu'à ce qu'il fût hors de portée de voix, puis s'assit sur une souche et se mit à siffloter. De temps à autre, il se tournait sur son siège, de façon à surveiller tantôt le docteur et moi, tantôt ces bandits indisciplinés qui allaient et venaient entre le feu qu'il s'affairait à rallumer et le fortin d'où il rapportait du porc et du biscuit pour leur déjeuner. Ainsi, Jim, dit le docteur d'un ton mélancolique, « voilà où tu en es arrivé. Tu récoltes ce que tu as semé, mon garçon. Dieu sait que je n'ai pas le cœur de te faire des reproches. Mais il y a une chose que je tiens à te dire, même si elle doit te faire de la peine. Si le capitaine Smollett avait été bien portant, tu n'aurais pas osé prendre la fuite. Tu as profité du fait qu'il ne pouvait pas t'empêcher de filer à cause de sa blessure, et par le ciel, je trouve ça très lâche de ta part. » J'avoue que je fondis en larmes en entendant ces mots. « Docteur, répondis-je, épargnez-moi, je vous en prie. Je me suis adressé suffisamment de reproches. De toute façon, Mes jours sont comptés et je serais déjà mort à l'heure actuelle si Silver n'avait pas pris ma défense. Croyez-moi, docteur, je saurai mourir et j'estime que je le mérite. Mais j'ai peur de la torture. S'ils en viennent à me torturer, Jim, déclara-t-il d'une voix altérée, je ne puis pas supporter cela. Saute par-dessus la palissade et sauvons-nous. Mais docteur, j'ai donné ma parole. Je sais, mais nous n'y pouvons rien, Jim. Je prends tout sur mes épaules, mon garçon, le blâme aussi bien que la honte. Mais je ne peux pas te laisser là. Saute vite. D'un seul bond, tu seras de l'autre côté et nous filerons comme deux lièvres. Non, docteur. Vous savez bien que ni vous, ni le châtelain, ni le capitaine n'accepteriez de faire une chose pareille. Je n'accepterai pas, moi non plus. Silver m'a fait confiance. J'ai donné ma parole. Je reste avec lui. Mais docteur, vous ne m'avez pas laissé achever. S'ils en viennent à me torturer, peut-être que je leur dirai où est le bateau. Car je me suis emparé de l'Hispaniola, un peu par chance, un peu au péril de ma vie. Elle se trouve dans la baie du Nord, sur la rive sud, juste au-dessus du niveau de la haute mer. À mi-marée, elle doit être à sec. Le bateau ! S'exclama-t-il. Je lui narrai brièvement mes aventures et il m'écouta jusqu'au bout sans souffler mot. Il y a une sorte de fatalité dans tout cela, déclara-t-il quand j'eus terminé mon récit. À chaque pas, c'est toi qui nous sauves la vie. Crois-tu donc que nous allons te laisser perdre la tienne ? Ah, ce serait vraiment une piètre récompense, mon garçon. Tu as découvert le complot. Puis, tu as découvert Ben Gunn. Et crois-moi, tu n'as jamais fait, tu ne feras jamais rien de mieux, même si tu dois vivre jusqu'à 100 ans. Ah, par Jupiter, à propos de Ben Gunn, ça c'est une sale histoire. Hé, hey, Silver ! Cria-t-il. Puis, lorsque le cuisinier se fut rapproché, il poursuivit. John, je vais vous donner un bon conseil. Ne vous pressez pas trop pour chercher le trésor. Ma foi, monsieur, je veux bien faire tout mon possible, mais ça, justement, c'est pas possible. Sauf votre respect, le seul moyen de sauver ma peau et celle du gamin, c'est justement de chercher le trésor. Je vous en fiche mon billet. Dans ce cas, dit le docteur, j'irai un peu plus loin. Veillez au grain une fois que vous l'aurez trouvé. Monsieur, reprit John, d'homme à homme, vous en avez dit trop ou pas assez. Où vous voulez en venir ? Pourquoi vous avez quitté le fortin et que vous m'avez donné cette carte ? J'en sais absolument rien, n'est-ce pas ? Pourtant, je vous ai obéi les yeux fermés, sans jamais entendre un mot d'espoir. Mais pour le coup, c'est un peu trop. Si vous ne voulez pas m'expliquer carrément de quoi il retourne, dites-le et je lâche la barre. Non, répliqua le docteur d'un air pensif. Je n'ai pas le droit d'en dire davantage. Voyez-vous, Silver, ce n'est pas mon secret. Sinon, je vous donne ma parole que je vous le confierai. Néanmoins, j'irai aussi loin que possible et même un peu plus, car je vais me faire laver la tête par le capitaine, c'est-à-dire me faire attraper, ou je me trompe fort. D'abord, je vais vous donner un peu d'espoir. Si nous sortons tous les deux vivants de ce piège à loup, je ferai de mon mieux pour vous sauver, vos témoignages à part. Ah, pour sûr, monsieur, vous pourriez pas mieux parler, même si vous seriez ma mère, s'exclama le cuisinier, le visage rayonnant. Voilà donc ma première concession. Quant à la seconde, c'est le conseil suivant. Gardez ce garçon près de vous et appelez quand vous aurez besoin de secours. Je pars vous en chercher. Ce qui vous montre que je ne parle pas à la légère. Au revoir, Jim. Sur ces mots, le docteur Livesey me serra la main à travers la palissade, adressa un signe de tête à Silver et s'enfonça dans le bois d'un pas rapide. Chapitre 31. La chasse au trésor. Le repère de Flint. Repère R-E-P-E accent grave R-E, c'est-à-dire le point de repère. Là, tu vas voir, ça va être une espèce de boussole. Jim, me dit Silver dès que nous fûmes seuls, Si je t'ai sauvé ta vie, tu as sauvé la mienne. Et ça, je l'oublierai pas. J'ai vu le docteur qui te faisait signe de filer. Oui, je l'ai vu du coin de l'œil. Et je t'ai vu dire non, aussi clair que si je t'entendais. Jim, c'est rudement bien de ta part. Je viens d'avoir ma première lueur d'espoir depuis l'échec de notre attaque. Et c'est à toi que je la dois. Maintenant, Jim, on va se mettre à cette chasse au trésor. Et par-dessus le marché, avec des ordres secrets, ce qui ne me plaît pas du tout. Toi et moi, faudra pas nous lâcher d'une semelle. Faudra rester, comme qui dirait, au coude à coude, et nous sauverons notre peau malgré les hasards du sort. Juste à ce moment, un des boucaniers nous cria que le déjeuner était prêt. Bientôt, nous fûmes tous assis sur le sable, en train de manger du biscuit et du porc frit. Ils avaient fait un feu qui aurait suffi à rôtir un bœuf. Il dégageait tant de chaleur qu'on ne pouvait l'approcher que du côté du vent et non sans précaution. Dans le même esprit de gaspillage, ils avaient préparé, j'imagine, 3 fois plus de nourriture que nous n'en pouvions manger. L'un d'eux, en éclatant d'un rire stupide, jeta les restes dans le feu qui se mit à flamber et à ronfler de plus belle en dévorant ce combustible insolite. Je n'ai jamais vu d'homme si insouciant du lendemain. Il vivait littéralement au jour le jour. En songeant à tant de nourriture gâchée et aux sentinelles endormies à leur poste, je compris que malgré la hardiesse dont ils pouvaient faire preuve pour une escarmouche rapide, ils étaient absolument incapables de tenir une campagne un peu longue. Silver lui-même, en train de dévorer à belles dents, avec son perroquet, Capitaine Flint, sur son épaule, n'eut pas un seul mot de reproche pour leur insouciance. J'en fus très étonné, car il me sembla qu'il ne s'était jamais montré plus habile qu'eux dans cette circonstance. « Ouais, camarade, déclara-t-il, vous avez de la veine que Tournebroche est un peu de tête pour vous tous. J'ai eu ce que je voulais, il n'y a pas à dire non. Pour sûr, ils ont l'Hispaniola. Où qu'ils l'ont mise, j'en sais rien. Mais quand nous aurons découvert le trésor, faudra se remuer pour trouver le bateau. Et alors, camarade, nous qui avons les canots, on a l'avantage sur eux. » C'est ainsi qu'il discourait, la bouche pleine de lard chaud. C'est ainsi qu'il leur rendait espoir et confiance, tout en ravivant son propre courage, à ce qu'il me semblait. « Quant à notre otage, poursuivit-il, je crois bien que c'est sa dernière conversation avec ceux qu'il aime tant. J'ai eu mes renseignements grâce à lui, et je l'en remercie bougrement. Mais à présent, c'est fini. Je le tiendrai en laisse au bout d'un filin, pendant qu'on cherchera le magot. Car on va le garder comme si c'était un lingot d'or. Des fois qu'il y aurait une anicroche, en attendant la suite. Lorsqu'on aura le bateau et le trésor, et qu'on sera en pleine mer comme de joyeux compagnons, alors on discutera au sujet de Monsieur Hawkins, pour sûr, et on lui donnera sa part en récompense de toutes ses bontés. Il n'y avait rien d'étonnant à ce que les mutins eussent retrouvé leur bonne humeur. Pour ma part, j'étais terriblement abattu. Si le projet que Silver venait d'esquisser se révélait réalisable, le cuisinier, déjà 2 fois traître, n'hésiterait pas à l'adopter. Il avait encore un pied dans chaque camp, et sans aucun doute, il préférerait la richesse et la liberté avec les pirates à la possibilité d'échapper à la potence, seule perspective que lui offrit au mieux notre parti. En outre, même si les choses tournaient de telle façon qu'il fut obligé de tenir parole au docteur Livesey, quel danger nous attendait encore? Comme il serait terrible le moment où les soupçons de ses partisans deviendraient certitude et où nous devrions combattre pour sauver notre vie, lui, un infirme, et moi, un enfant, contre 5 matelots vigoureux et décidés. Si vous ajoutez à cette double crainte le mystère qui enveloppait encore la conduite de mes amis, leur étrange abandon du fortin, leur inexplicable remise de la carte à Silver, ou, plus déconcertant que tout le reste, le dernier avertissement du docteur au cuisinier, veillez au grain une fois que vous l'aurez trouvé, vous comprendrez aisément combien mon déjeuner me sembla dépourvu de goût et combien j'avais le cœur serré quand je partis à la recherche du trésor, escorté par mes gardiens. S'il y avait eu quelqu'un pour nous voir, nous lui aurions offert un étrange spectacle, tous en vêtements de marin maculés de taches et tous, sauf moi, armés jusqu'aux dents. Silver portait deux fusils en bandoulière, un par devant, un par derrière, et un pistolet dans chaque poche de son habit au basque carré. Pour compléter ce singulier accoutrement, le capitaine Flint, perché sur son épaule, débitait des bribes de propos incohérents ayant trait à la mer. J'avais un filin noué autour de la taille, un filin, c'est une espèce de ficelle, et je suivais docilement le cuisinier qui tenait l'extrémité de ma laisse, tantôt dans sa main libre, tantôt entre ses fortes dents. À vrai dire, il me menait exactement comme un ours savant. Les autres étaient chargés de divers fardeaux. Les uns portaient des pioches et des pelles, qu'ils avaient débarraquées de l'Hispaniola avant toute autre chose, d'autres du porc, du biscuit et de l'eau-de-vie pour le repas de midi. Ayant remarqué que tous ces vivres venaient de notre réserve, je compris combien Silver avait dit vrai la nuit précédente. S'il n'avait pas traité avec le docteur, lui et ses mutins, privés de la goélette, auraient été réduits à vivre d'eau claire et du produit de leur chasse. L'eau n'aurait pas été de leur goût, et les marins sont rarement bons tireurs. En outre, de même qu'ils avaient fort peu de vivres, ils ne devaient pas être abondamment pourvus de poudre. C'est en cet équipage que nous nous mîmes tous en route, y compris l'homme au crâne fendu qui aurait certainement mieux fait de rester à l'ombre, et gagnâmes à la file indienne le rivage où les deux yoles nous attendaient. Les embarcations, elles aussi, témoignaient de l'ivresse et de la stupidité des pirates. L'une avait un banc brisé, toutes deux étaient à moitié pleines d'eau et de boue. Par mesure de sécurité, nous devions les garder avec nous. Nous nous répartîmes donc en deux groupes, avant de nous lancer sur les eaux de la baie. Tout en ramant, les boucaniers se mirent à discuter au sujet de la carte. Naturellement, la Croix-Rouge était beaucoup trop grande pour nous guider de façon précise, et la note manuscrite au verso présentait, comme vous allez le voir, une certaine ambiguïté. Peut-être le lecteur se rappelle-t-il qu'elle donnait les indications suivantes. « Grand arbre, contrefort de la longue vue, situé à un quart nord du nord-nord-est. Îlot du squelette, est-sud-est, quart est, 10 pieds. » Un pied fait environ 30 cm, 10 pieds c'est donc 3 mètres. Le point de repère principal était donc un grand arbre. Or, juste en face de nous, le mouillage se trouvait borné par un plateau de 200 à 300 pieds de haut, 60 à 100 mètres, rejoignant au nord la pente du contrefort méridional de la Longue-Vue et remontant vers le sud pour se raccorder à la brute éminence rocheuse nommée la colline du Mât d'Artimon. Le haut du plateau était couvert de pins de différentes hauteurs. Par endroits, l'un d'eux, appartenant à une autre espèce, se dressait à 40 ou 50 pieds au-dessus des autres, 12 à 15 mètres. Mais pour décider lequel était le grand arbre du capitaine Flint, il fallait être sur place et utiliser un compas. Néanmoins, chaque boucanier, à bord des yoles, avait choisi son arbre favori avant que nous eussions parcouru la moitié du trajet. Seul Long John haussait les épaules et conseillait d'attendre qu'on fût arrivé. Nous ramions doucement, suivant les instructions de Silver, afin de ne pas fatiguer les hommes prématurément. Après une très longue traversée, nous débarquâmes à l'embouchure de la seconde rivière, celle qui descend du faîte de la Longue-Vue au creux d'un ravin boisé. De là, en obliquant sur la gauche, nous commençâmes à gravir la pente en direction du plateau. Au début, notre marche fut retardée par un terrain marécageux couvert d'une végétation enchevêtrée. Mais peu à peu, la pente se fit plus abrupte et le sol plus rocailleux, tandis que le bois, changeant d'aspect, devenait moins touffu. En vérité, nous approchions maintenant d'une des parties les plus agréables de l'île. L'herbe était presque partout remplacée par des genêts aux parfums entêtants et de nombreux buissons en fleurs. Ça et là, des fourrés de muscadiers mettaient des taches vertes parmi les pins aux fûts rougeâtres, au vaste ombrage, et l'odeur épicée des uns se mêlait au puissant arôme des autres. En outre, l'air était frais et vivifiant, ce qui, sous les rayons du soleil presque à son zénith, nous apportait un merveilleux réconfort. Avec force cri et force bond, notre troupe se déploya en éventail. À peu près au milieu, assez loin en arrière, Silver et moi suivions les autres, moi au bout de mon filin, lui peinant et ahanant sur les cailloux glissants. À vrai dire, je devais parfois lui donner la main pour lui éviter de faire un faux pas et de dégringoler le long de la pente. Nous avions ainsi parcouru environ un demi-mille, un peu moins d'un kilomètre, et nous approchions du sommet du plateau, quand l'homme qui se trouvait le plus à gauche poussa un cri sous l'effet, semble-t-il, d'une terreur subite. Comme il ne cessait pas de crier, tous les autres se précipitèrent dans sa direction. « Il peut pas avoir trouvé le trésor !» dit le vieux Morgan qui, venant de notre droite, passa devant nous en courant, « puisque la cache est tout en haut !» En effet, comme nous le constatâmes en arrivant sur les lieux, il s'agissait de tout autre chose. Au pied d'un pin assez gros, ligoté par une liane verte qui avait soulevé certains petits os, gisait un squelette humain recouvert de quelques lambeaux d'étoffe. Je crois que ce spectacle glaça tous les cœurs l'espace d'un instant. « C'était un marin !» déclara Georges Méry, qui, plus hardi que les autres, s'était approché pour examiner les haillons. En tout cas, il portait du bon drap de marin. « Pour sûr !» répliqua Silver. « C'est plus que probable !»« Tu t'attendais pas à trouver un évêque dans ce coin, non ?»« Mais j'ai jamais vu un squelette placé comme ça. C'est pas naturel !» En fait, au second coup d'œil, il semblait impossible de concevoir que le corps fût dans une position normale. À part quelques os un peu en désordre, œuvre des oiseaux qui s'étaient nourris du cadavre, ou de la liane à la poussée lente qui avait peu à peu enveloppé sa dépouille, l'homme gisait selon une ligne droite parfaite, les pieds orientés dans une direction et les mains levées au-dessus de la tête, comme celles d'un plongeur, exactement dans la direction opposée. « Il m'est venu une idée dans ma vieille caboche !» déclara Silver. « Voici le compas. » Le compas, en termes de marine, c'est la boussole. « Et voilà, tout là-bas, l'extrême pointe de l'îlot du squelette qui fait saillie comme une dent. Faites un relèvement, les gars, dans l'alignement des eaux. » C'est-à-dire, regardez bien la direction. Son ordre fut exécuté. Le squelette était orienté droit dans la direction de l'île, et le compas marquait bien est-sud-est, car est. « C'est juste ce que je pensais !» déclara le cuisinier. « Ce squelette sert de repère. Tout droit là-haut, il y a notre étoile polaire et le magot. Même il tonnerre, quand je pense à Flint, j'en ai les tripes glacées. Ça, c'est bien une de ses farces, il n'y a pas d'erreur. Il était seul avec ses 6 hommes. Il les a tués tous, sans exception. Et ensuite, 1000 sabords. Il en a traîné un jusqu'ici et il l'a orienté au compas. Les os sont longs et les cheveux étaient blonds filasses. Ça devait être Allardyce. A-2-L-A-R-D-Y-C-E. Tu te rappelles Allardyce, Tom Morgan? Pour sûr que je me le rappelle. Même qu'il me devait de l'argent et qu'il est descendu à terre en emportant mon couteau.
Parlant de couteau, dit un des boucaniers, pourquoi qu'il n'y a pas celui du mort ici? Flynn, c'était pas le gars à vider les poches d'un marin. Et les oiseaux, je suppose, y auraient pas touché.
« Crétonnerre, c'est la vérité vraie !» s'écria Sylvestre. « Il reste rien du tout !» déclara Georges Méry qui continuait à fouiller parmi les eaux. « Pas un liard, pas une blague à tabac. Ça me paraît pas naturel. » « Non, pour sûr, approuva Silver, c'est pas naturel et c'est pas très agréable. « Tonnerre de Dieu, les gars! Ah, si Flint vivait encore, ça chaufferait bougrement ici, pour vous et moi. 6 qu'ils étaient, tout comme nous, et il en reste plus que les os. »« Je l'ai vu mort de mes 2 yeux, Flint, » dit Morgan. « Billy m'a fait entrer. Il était là, tout raide, avec une pièce de monnaie sur chaque œil. »« Mort ?» « Pour sûr qu'il est mort et enterré, » dit l'homme à la tête bandée. « Mais si jamais c'était vrai qu'il y a des esprits qui reviennent sur terre, celui de Flint, il serait le premier à revenir. »« Oh, cré bon sang, quelle sale mort il a eu, Flint !»«
Oh, pour ça, oui !» déclara un autre boucanier. « Des fois, il était furieux. Des fois, il gueulait pour avoir du rhum.
Des fois, ils se mettaient à chanter. Ils chantaient toujours la même chanson. Ils étaient 15 sur le coffre du mort. Et pour vous dire, vrai camarade, ça m'a jamais fait plaisir de l'entendre depuis ce jour-là. Il faisait une chaleur de four, et le sabord était ouvert, et j'entendais cette vieille rengaine qui chantait d'une voix claire, tandis que déjà, la mort lui avait mis le grappin dessus.
« Ça suffit comme ça, bouclez-la !» ordonna Silver. « Il est mort, il se promène pas sur terre, pour autant que je sache. Du moins, il se promène pas deux jours. Je vous en fiche mon billet. La peur est pire que le mal. Allons chercher les doublons. »
Les doublons, je te rappelle, sont les pièces d'or espagnoles. Nous nous remîmes en route, bien sûr, mais malgré le soleil brûlant et l'éclatante lumière du jour, les pirates ne couraient plus à travers bois, chacun de leur côté en s'interpellant. Ils marchaient côte à côte et parlaient à voix basse. La terreur du boucanier mort leur avait enlevé tout leur entrain.
Fin de la deuxième piste de la neuvième cassette, page 225, L'île au trésor par Robert Louis Stevenson.